France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est ce qu'on appelle un cold case ou une affaire classée, c'est-à-dire la plupart du temps un crime qui a été classé sans suite. Dans les films et les romans, ce sont des histoires qui hantent des policiers torturés pendant des années. Souvent, comme chez Elroy, l'affaire résonne avec la vie de l'officier, sa mère a été assassinée d'une manière similaire, ou sa fille, ou sa femme. Et les images des meurtres se superposent et reviennent sans cesse en flashback. Le policier consacre alors sa vie entière à trouver le coupable et n'aura pas de paix tant que la justice ne sera pas faite. Raphaël Nedilko, lui, est un policier français qui n'a pas atterri à Los Angeles, mais à Chalon-sur-Saône. Le jour où il tombe sur le dossier irrésolu des mystérieux disparus de la CIS, les obstacles qu'il rencontre ne sont pas métaphysiques ou liés à son passé, mais essentiellement administratifs. Nous sommes en France, les scellés ont été perdus, les moyens manquent et au bout d'un certain temps, ces notes de frais posent problème. Sa hiérarchie se fatigue de son obstination. Jusqu'à ce qu'un beau jour, tout de suite donc, plongé dans la fabrique d'une enquête ou mécanique d'un cold case raconté par Émilie Chaudet.
Je m'appelle Raphaël Nedilko, j'ai 50 ans. Donc je suis officier de police judiciaire au sein du commissariat de police de Chalon-sur-Saône. J'ai pu intégrer l'école de police de Sens en 1996. Et puis un jour, j'ai découvert la brigade criminelle, la mythique crime du 36 quai des Orfèvres, dont j'ai toujours rêvé passer la porte d'entrée et me consacrer pendant près de 8 ans aux homicides. Et puis j'ai décidé de faire prévaloir mes droits à une vie un peu plus calme en province, puisqu'à l'époque j'étais marié et père de 3 enfants. Et j'ai pu obtenir le 1er janvier 2008 une mutation à la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon. Et puis un an plus tard, en début 2009, un nouveau directeur est arrivé et a décidé de créer une unité crime, la brigade de répression des violences aux personnes, que j'ai intégré donc au mois de janvier 2009, qui avait en portefeuille, parmi les dossiers récents, d'autres dossiers beaucoup plus anciens, ce qu'on appelle maintenant des crimes non résolus ou des cold cases, excusez-moi pour l'anglicisme, qui appartiennent pour 3 d'entre eux à ce qu'on appelle les disparus de la CIS. Cela faisait plusieurs années que des demandes d'actes étaient adressées par Didier Seban, l'avocat des oubliés, qui représentait l'association Christelle, qui a vu le jour quelques mois après l'assassinat de Christelle Blétry en 1996 et qui remuait ciel et terre pour vaincre l'inertie de la justice, puisque c'est ça le problème numéro un, c'est le fait que la justice depuis des années ne faisait rien. En 2009, lorsque j'arrive dans ce groupe-là et qu'on commence à travailler sur les cold cases, j'ai un membre de mon groupe qui se prénomme Christophe, qui partage cette appétence pour les cold cases avec moi. Et donc on décide d'unir nos forces, chacun dans son dossier, c'est-à-dire que moi j'ai pris vraiment en charge le dossier Christelle Maïri, puisque de par le profil de la victime, qui ressemblait énormément à ma sœur, qui est née le même mois, le même année qu'elle, donc en juillet 1970, qui avait une famille qui ressemblait énormément à la mienne, faite de simplicité, avec une maman qui mettait des prospectus dans les boîtes aux lettres pour arrondir les fins de mois, donc vraiment beaucoup de points de similitude avec ma famille. Je m'empare de ce dossier-là. En plus, il est très ancien, il n'y a pas de téléphone immobile. Donc c'est vraiment un dossier qui, policièrement parlant, avec ses photos de scènes de crime en noir et blanc et son papier jauni tapé à la machine à écrire, me touche. Et puis Christophe décide de prendre le dossier Blétry. Donc je l'aide dans le dossier Blétry, il m'aide dans le dossier Maïri. Le dossier Maïri, c'est un peu mon bébé et je décide vraiment de le suivre de très très près. Donc déjà pour pouvoir lire le dossier, il m'a fallu un temps supplémentaire, c'est-à-dire que on m'a donné pour consigne de faire ça au fil de l'eau. Donc déjà, vous avez l'explication du manque de moyens et de temps accordé à ces dossiers-là, c'est que je dois faire ça lorsque le reste de l'actualité m'en donne l'occasion. Donc pour moi, c'est inconcevable. Je pose une semaine de congé pour pouvoir appréhender l'ensemble des cartons de procédure jaunie que j'emmène à la maison, bien évidemment. Et ce que l'on découvre en lisant le dossier de Christelle Maïri, donc tuée le 18 décembre 1986 au Creusot, elle est vue quittant les cours à 11h et remontant seule l'avenue Foch pour remonter dans son quartier à pied, le quartier de la Charmille. Au moment de la pause déjeuner, sa maman l'attend à la maison pour déjeuner, s'inquiète de son absence, téléphone pour savoir si elle est allée chez une de ses copines ou un de ses copains, et en fin de compte s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup d'agitation dans le quartier, au pied d'un immeuble qui est situé à 250 mètres de chez elle, et elle est abordée peu de temps après par des inspecteurs qui ont beaucoup de mal à lui apprendre qu'un corps a été découvert, et c'est Marie Pichon, donc la maman de Christelle, qui interroge les inspecteurs. « Mais vous avez retrouvé ma fille ?»« Oui, vous avez retrouvé ma fille, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est morte, mais comment elle est morte ?» Et les inspecteurs sont statufiés, n'arrivent pas à lui expliquer ce qui s'est passé. C'est Marie qui leur tire les vers du nez, et là, bien évidemment, elle sombre dans le chaos, elle sombre dans la souffrance, elle se tape la tête contre les murs, elle est maîtrisée par les inspecteurs et son mari pour l'empêcher de se faire du mal. On découvre un peu plus tard dans la procédure que les seuls éléments d'enquête tangibles qui nous restent concernent un individu ressemblant au chanteur Renaud, qui est aperçu peu de temps après les faits, descendant un chemin venant de la scène de crime, en courant et manquant, en prenant le virage pour aller sur la rue Foch, de bousculer un jeune préposé des postes qui en donne une description. Et surtout, l'élément essentiel, et qui va faire toute la difficulté de mes investigations, c'est que tous les scellés judiciaires sont détruits par négligence de la justice en 1999. Donc ils sont simplement pris et jetés à la poubelle. Parmi ces scellés judiciaires, il y avait donc tous les vêtements de Christelle, et il y avait aussi un couteau à cran d'arrêt automatique qui avait été découvert au mois de février 87 à la Fonte des Neiges, donc 2 mois et demi après la commission des faits, le long de ce chemin de fuite de ce suspect. Donc j'ai un dossier dans lequel j'ai très peu d'éléments, un dossier très ancien et pour lequel tous les scellés judiciaires ont été détruits. Je découvre que, à peine au bout de 6 mois d'enquête, donc on arrive à la mi-87, la famille de Christelle, notamment sa maman, Marie Pichon, ne voit plus ni policier ni enquêteur, et que, à peine au bout de 3 ans, c'est-à-dire c'est très court d'un point de vue judiciaire, elle reçoit une ordonnance de non-lieu par courrier lui disant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Et il faut, en fin de compte, attendre 10 ans, pratiquement jour pour jour, pour qu'une jeune fille qui porte le même prénom, celui de Christelle, à quelques kilomètres de l'endroit où la première victime a été tuée, meure dans des circonstances pour le moins sordides, puisqu'elle a été massacrée de 123 coups de couteau, et que son corps est découvert au petit matin le long d'un chemin à Blanzy, le 28 décembre 1996. Et de la même façon que Marie Pichon, la maman de Christelle Maïri, a été, pour ainsi dire, maltraitée, la maman de Christelle Blétry subit le même traitement, parce qu'elle était en train de patienter dans les couloirs du commissariat de police, elle entend le bruit des transmissions radio entre effectifs que le corps d'une jeune fille était découvert, donc elle s'aperçoit très vite qu'il s'agit du corps de son propre enfant, on ne lui dit absolument pas ce qui s'est passé, elle est conduite à la morgue où on lui dit « mais moi je vois par votre réaction que vous avez compris, il n'y a rien de besoin de vous expliquer », et s'adressant à une infirmière, le médecin légiste lui dit « bon, mettez-la dans un box, donnez-lui un calmant ». Elle apprend le lendemain par voie de presse comment sa fille avait été tuée. Un peu plus tard, elle apprend des éléments d'enquête, mais elle n'est absolument pas prise en compte par les institutions. Face à cette maltraitance, contrairement à Marie Pichon qui s'effondre totalement après la mort de sa fille, Marie-Rose Blétry, prise de colère et de ressentiment, avec l'aide de ses proches, fonde cette association qui s'appelle l'association Christelle. Et à force de vendre des brioches, d'organiser des repas dansants, des lotos, arrive à récolter des fonds pour payer les frais d'avocat et lance une invitation à une réunion publique pour pouvoir rassembler toutes les familles de ces meurtres non résolus, ces disparus de la CIS, pour pouvoir justement vaincre ensemble l'inertie de la justice. Il a fallu qu'une deuxième jeune fille meure en 96 pour que l'ensemble des cas soit enfin portée devant les institutions et que les familles ne se laissent plus faire. Lorsque je reprends ces dossiers donc en 2009, je suis prévenu par ma hiérarchie du côté difficile des familles de victimes, qui sont décrits comme des gens colériques, têtus, qui veulent pas accepter que tout a été fait policièrement. Et moi, je me disais parallèlement que, vu ce qui avait été fait dans le dossier, je pouvais comprendre une telle amertume, et que moi-même, si j'avais été confronté à une telle situation, je serais de très mauvaise humeur. Donc cette première rencontre a eu lieu au cours de l'été 2009. Et donc je peux vous dire que quand je me suis présenté à cette femme, Marie Pichon, la maman de Christelle Maïri, déjà j'en menais pas large, hein, quand bien même je mesure 1m87 et pèse 100 kg, j'ai eu affaire à une femme très réservée, qui parle très peu et qui était très méfiante au départ. Donc je savais que j'arrivais au nom d'une institution qui était ONI. Donc je devais, en très peu de temps, déjà renouer la confiance. C'est-à-dire que je me suis engagé auprès de Marie de lui donner des nouvelles tout au long de mes investigations, au rythme d'environ une fois toutes les 3 semaines. Et c'est ce à quoi je me suis tenu fidèlement jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, bien évidemment, lorsque j'ai repris le dossier, j'ai fait un état complet. Hein, donc j'ai dressé des tableaux, des faits tangibles, indiscutables, sur lesquels on pouvait s'appuyer. Ils n'étaient malheureusement au final pas très nombreux. Et puis j'ai fait une revue de presse exhaustive, hein, puisqu'il était important pour moi de faire le point sur ce qui était connu du grand public et ce qui ne l'était pas, pour pouvoir justement réagir si un mis en cause, un suspect, venait à parler de ces choses-là qu'il n'était pas censé connaître. Et puis il se produit un jour deux événements successifs à 1 ou 2 jours d'intervalle. C'est qu'on a d'abord un coup de fil anonyme qui arrive au commissariat du Creusot d'un homme dont on relève le numéro d'appel sur le standard et qui prétend qu'il connaît le meurtrier de la petite Christelle à la Charmille. Il donne une plaque minéralogique et raccroche. Les tentatives de rappel sont vaines puisque la ligne est coupée. Et peu de temps après, le juge d'instruction m'appelle pour me faire savoir qu'une lettre anonyme évoquant la petite Christelle à la Charmille, est arrivée à son cabinet. Et lorsque j'étudie l'écriture de cette lettre, je percute immédiatement sur un individu qui a été abordé dans le dossier de nombreuses années auparavant, qui s'appelle Jean-Pierre Murat, dont le nom apparaît grâce au travail d'un détective privé qui s'appelle Éric Bellawell, dont les services ont été loués par l'association Christelle, grâce à la vente de brioches à la sortie des centres commerciaux par des pères et des mères de famille, ce qui est assez fou. Faut souligner. Et Éric Bellawell va rencontrer le petit copain de Christelle au moment des faits, il se prénomme Michel, sa nouvelle compagne, et puis un ami très proche qui s'appelle Éric. Et ils donnent la même version, chacun leur tour, d'une soirée qui a eu lieu chez Michel à la fin des années 90, au cours de laquelle un quatrième individu, qui s'appelle Jean-Pierre Murat, était invité, et ce dernier, au terme du repas, en pleurs, explique que c'est lui le meurtrier de Christelle, donc il en pleure, il demande pardon à Michel, et il propose 2000 francs de l'époque en dédommagement de ce qu'il a fait. Alors, bien évidemment, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais comme il est un petit peu pris de boisson, ils ne prennent pas cette information au sérieux, mais il n'en demeure pas moins que de nombreuses années après les faits, Michel, il est encore marqué, hein, à ce point qu'il en parle au détective privé lorsqu'il vient le voir en 2003. Et Bellawell décide d'aller à la rencontre de Jean-Pierre Murat. Et il a affaire à un personnage particulièrement troublant, qui est très soucieux de savoir où en est l'enquête. Et cette attitude va énormément inquiéter Éric Bellawell, qui va écrire un rapport. L'association Christelle, bien évidemment, va en faire part à son avocat, et l'avocat va transmettre ça au juge d'instruction. Et la phase d'enquête qui va suivre, paradoxalement, ne fait même pas mention du nom de Jean-Pierre Murat. Donc c'est une négligence pour moi qui est grave. Et il faudra que le juge d'instruction redemande que le nécessaire soit fait concernant Jean-Pierre Murat en 2005. Lorsqu'il est interpellé, Jean-Pierre Murat est diagnostiqué schizophrène. Il est dans un état plus ou moins délirant, tant et si bien que sa garde à vue dure très peu de temps. Pour moi, il reste un suspect possible. Donc là, on est en mars 2010, et je décide de rencontrer son frère aîné, Joseph. Et il me dit qu'effectivement, son frère est depuis toujours complètement obsédé par l'affaire Maïri, qu'il tient un carnet dans lequel il met tous les renseignements qui concernent cette affaire. Et il est passionné par les couteaux. Il en possède une grande quantité, notamment à l'époque des couteaux à cran d'arrêt automatique. Et au terme de notre entretien, je lui demande où est son frère à ce moment précis. Il me dit il est hospitalisé sous contrainte au CHS de Sevrette, puisque en mars 2010, Jean-Pierre Murat entendait dans sa tête des voix l'insultant lui et sa mère. Et persuadé que cela était émis par une station-service, il allait se présenter et intimer l'ordre sous la menace d'un couteau à la caissière de tout faire pour cesser cela. Et là, je rentre doublement en résonance, déjà parce qu'il y a le terme de couteau, et deuxièmement, il y a station-service. Or, les parents de Christelle étaient gérants d'une station-service et Christelle travaillait souvent dans cette station-service. Donc Jean-Pierre Murat est à plus d'un titre très intéressant pour moi dans l'enquête. Et à partir de là, donc on est vraiment au printemps 2010, je vais m'accrocher à lui pour savoir si effectivement il peut s'agir du meurtrier de Christelle ou pas. Et j'attends quelques mois qu'il soit stabilisé pour aller le rencontrer librement au CHS de Sevrey. Je vais le rencontrer, il est parfaitement au courant de la raison pour laquelle je viens le voir, donc il n'y a aucun effet de surprise. J'ai affaire à un homme qui est très sûr de lui, qui m'affirme qu'il ne connaît pas Christelle Mairie, qu'il ne l'a jamais vue, il ne sait même pas à quoi elle ressemble, qu'il ne sait rien de l'affaire, il ne sait pas comment elle a été tuée, il ne sait pas où est-ce qu'elle a été retrouvée, et il me dit que ce n'est pas lui le meurtrier. Et au moment où je vais pour conclure mon acte, il me dit quelque chose qui me saisit, il me dit « Moi j'ai appris peu de temps après le meurtre que deux personnes avaient échangé un couteau à cran d'arrêt. » Et là, je me dis, mais pourquoi vous me parlez de couteau à cran d'arrêt? C'est lui qui m'en parle sans que je pose la moindre question. Et la deuxième information qui met vraiment le feu aux poudres, c'est qu'il me reconnaît lui-même sa présence à La Charmille, donc le quartier où Christelle était tuée, le jour des faits. Il était en mesure de se souvenir exactement de ce qu'il faisait le jeudi 18 décembre 1986. Je vous mets au défi de savoir ce que vous faisiez ce jour-là. Donc à partir de là, lorsque je sors de l'hôpital psychiatrique, c'est là que j'ai la conviction intime de m'être trouvé en présence avec le meurtrier Christelle Mairie. Mais je n'ai pas encore les éléments pour pouvoir le montrer. Et je dois travailler sur lui en plus de mon travail. Et c'est là que je rentre vraiment dans un chemin de croix, puisque pendant un an et demi, je vais traverser la France dans tous les sens, avec une hiérarchie qui commence à s'impatienter, qui en a marre de me signer des bons sandwichs, des tickets d'autoroute et des tickets de carburant pour un dossier qui n'aboutit pas. C'est bien d'investir des moyens, mais ce serait bon d'avoir des résultats. Je suis critiqué pour ce surinvestissement qui est le mien dans l'affaire Mairie. Mais ce chemin de croix, j'arrive à l'emprunter et à le suivre avec une seule chose, c'est le soutien des familles des victimes. Et lorsque je vais dire un peu plus tard devant les caméras de télévision qu'il y a un lien de filiation qui s'installe entre Marie Pichon, donc la maman Christelle Mairie, et moi, je suis vertement moqué par ma hiérarchie, hein, qui me dit avoir ri de moi en regardant l'émission en compagnie d'amis magistrats, et pour moi c'est une souffrance incroyable. Ce ne sont pas eux qui sont obligés d'expliquer à des familles de victimes qu'on n'aboutira pas, ce n'est pas eux dont le regard est obligé de croiser celle de familles désespérées, donc je trouvais ça absolument odieux de leur part de me critiquer à ce point et de me refuser le soutien auquel j'avais légitimement droit. Mais je ne me démonte pas. Donc je travaille sur Jean-Pierre Murat. Je vais principalement déterminer quel était son aspect à la fois physique et vestimentaire au moment des faits. Donc pour ce faire, je me procure toutes les photos de Jean-Pierre Murat de l'adolescence jusqu'au moment de son interpellation par les gendarmes en 2010. Et j'en fais un panel que je représente à toutes les personnes qui l'ont fréquenté à l'époque des faits. Et tous me fixent le même visage, la même photographie. Donc c'est un jeune homme châtain, aux cheveux à la coupe mulet, et qui portait tout le temps un blouson en jean avec un col mouton. Je travaille aussi énormément sur le couteau qui a été découvert et détruit. Et pour ce faire, j'ai cette idée assez saugrenue de demander au juge une ordonnance de commission d'experts auprès d'un expert en armes qui a accepté de comparer les stigmates d'affûtage, c'est-à-dire les traces qu'on laisse sur la lame d'un couteau quand on l'affûte, entre les couteaux qui ont été découverts sur Jean-Pierre Murat au moment de son interpellation en mars 2010 et le couteau découvert à la Fonte des Neiges en février 87, que je n'avais plus puisqu'il avait été détruit suite à une bêtise de la justice, mais dont j'avais encore des négatifs photos. Donc j'ai apporté les couteaux à cet expert qui a réussi à déterminer que les couteaux étaient tellement mal affûtés par Jean-Pierre Murat qu'ils avaient laissé sur la lame jusqu'à 5 stigmates d'affûtage, ce qui représente à une signature. Et on retrouve ces 5 stigmates d'affûtage sur les négatifs photos. Donc j'en arrive au moment où j'extrais Jean-Pierre Murat de l'hôpital psychiatrique, il est stabilisé, je le place en garde à vue et je l'interroge. Et bien évidemment, donc lui continue à nier les faits. Et puis il se prend progressivement les pieds dans le tapis. Il réfute la possession de ce fameux blouson, jean, col mouton. Et puis au bout d'un moment, il finit par reconnaître. Oui, bon, bah parce que vous insistez. Alors moi, je lui pose la question, je dis, mais pourquoi était-ce si important pour vous de ne pas reconnaître la possession de ce blouson jean col mouton? Et là, il me dit, bah, c'est bien simple, parce qu'il y a eu, en avril 1993, une émission animée par Jacques Pradel qui s'appelle Témoin numéro 1, où il y avait eu un appel à témoins. Donc, j'ai pas vu toute l'émission, j'ai vu que le début, voilà. Mais il y a eu, comme reconstitution, une petite scène filmée avec des acteurs où on voit Christelle Maïri marcher dans la rue aux côtés d'un individu suspect. Et donc cet individu suspect, il avait un blouson de jean col mouton. Donc c'est comme ça, les gens, ils ont voulu mettre le meurtre sur le dos, ils ont vu l'émission, donc ils ont forcément dit que j'avais un jean bleu col mouton. Et là, je sors ma revue de presse et je lui montre l'image de cette reconstitution que j'avais extraite de l'émission Témoin numéro 1. Et pour son plus grand malheur, l'acteur qui joue ce suspect est tout de noir vêtu. Jean noir et blouson perfecto cuir noir. Et là, mais ça lui a fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Et il a dit, maintenant, je réponds plus aux questions. Je continue à développer mes arguments et je l'interroge sur son niveau de connaissance des caves, notamment l'endroit où a été découvert le corps de Christelle Maïri. Et il m'explique qu'il s'est rendu sur place. Alors, pour éviter d'être accusé parce qu'il aurait reconnu être là le jour du meurtre, il me dit qu'il est allé plus tard. Plus tard, j'y vais, et donc je passe devant la cave et je décide de rentrer dedans pour voir s'il reste des traces de sang. Mais je dis, c'est important pour vous? Non, mais c'était juste de la curiosité, je voulais voir s'il restait des traces de sang sur l'emplacement du corps. Bon, il y en avait? Non, il n'y en avait plus. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous faites? Bah, je suis pris d'une envie pressante de faire pipi. D'accord, et vous faites quoi? Bah, j'urine. Où ça? Bah, à l'endroit où j'ai regardé les traces de sang, c'est-à-dire que Vous urinez à l'endroit même du corps, hein, donc puisque c'était là, vous cherchez des traces de sang. Et oui, c'est ce que je fais. Et après, qu'est-ce que vous faites? Bah, je quitte les lieux, je rentre chez moi. Donc là-dessus, bien évidemment, je rencontre au magistrat et je lui propose au magistrat un peu plus tard en interrogatoire de cabinet, en présence de l'avocat de Jean-Pierre Murat, donc de lui représenter un plan des caves, notamment l'endroit où a été découvert le corps de Christelle Maïri, un plan des lieux qui sont extrêmement complexes et où je prends soin de ne pas préciser l'emplacement précis du corps, sachant que au terme de ma revue de presse, c'est totalement tenu sous silence. C'est-à-dire que seuls les policiers et l'auteur des faits sont censés le connaître. Et en présence de son avocat, Jean-Pierre Murat prend un stylo et fait une croix sur le plan, et c'est pile l'endroit où le corps de Christelle a été retrouvé. Il y a eu 2 procès d'assises, et c'est important de souligner à quel point c'est une épreuve terrible pour les familles des victimes. C'est un espoir qu'elle avait perdu depuis longtemps. C'est là qu'on a pu voir la solidarité de l'association Christelle. Tous les membres de l'association étaient là tous les jours. Ils ont eu affaire à quelqu'un de complètement fermé, en la personne de Jean-Pierre Murat, qui n'a jamais avoué, qui est condamné, qui fait rapidement appel. Donc de nouveau, il y a ce procès en appel. Et j'avais peur de l'acquittement, puisque j'aurais pris ça comme une faute personnelle. puisque je n'aurais pas réussi à partager cette intime conviction qui était la mienne avec les membres de la cour. Et le premier souvenir que j'ai, c'est le soulagement lorsque le verdict tombe en appel, qu'il est de nouveau condamné à 20 ans de réclusion, et que dans la salle des pas perdus, donc c'est à la sortie de la cour d'assises, on tombe dans les bras l'un de l'autre avec Marie, et qu'elle me prend le visage entre les mains, et qu'elle me dit merci des dizaines de fois. Et c'est le moment où on passe de Madame Pichon à Marie. Elle m'a dit, mais maintenant vous allez m'oublier. Et je lui dis, non, jamais, jamais je vous oublierai, et je resterai avec vous jusqu'au bout. Et donc je vois encore très régulièrement Marie, et je reste jamais plus de 3 semaines sans leur donner une nouvelle, parce que sinon j'ai le droit à un rappel à l'ordre. Donc elle m'appelle pour me rappeler ma promesse, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup d'humanité. Moi, au cours de l'année 2016, complètement poussé à bout dans mes retranchements par ma hiérarchie, qui n'a pas plus que cela tiré les leçons des démonstrations que j'avais faites, que tout demeurait possible dans un colcaise et qu'on devait y accorder beaucoup plus d'intérêt, j'ai décidé de quitter la police judiciaire de Dijon pour le commissariat de Chalon-sur-Saône, où je suis encore aujourd'hui, non plus dans les violences aux personnes, mais à la brigade financière. Et malheureusement, quelques mois plus tard, en octobre 2016, rattrapé par ma fatigue, j'ai divorcé de ma première épouse. J'ai vendu la maison que j'avais construite de mes propres mains. Je suis terrassé par un infarctus du myocarde en octobre 2016. Donc policièrement, j'ai décidé de faire un pas de côté. Et j'ai écrit notamment un article dans les cahiers de la sécurité de la justice qui a donné lieu à la création du pôle de magistrats, le pôle colcaise dédié à Nanterre, qui est censé donner un second souffle en matière judiciaire pour le traitement de ces dossiers-là et qui a été énormément porteur d'espoir pour les familles. Mais surtout, et j'en ai fait vraiment la démonstration, c'est que on ne peut pas confier l'exécution des ordres donnés par les magistrats à des enquêteurs qui n'ont pas comme rôle exclusif de s'occuper des cold cases. Vous ne pouvez pas jouer au yo-yo avec la souffrance des familles de victimes. I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hat now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain.
C'était Anatomie d'un cold case, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Étienne Gracianet. Merci bien sûr à Raphaël Nedilko et à Gaël Job. Je signale que Raphaël Nedilko vient de publier L'Obstiné, coécrit avec Catherine Siguret aux éditions Studio Fact. Et je signale aussi, pour ceux qui l'ignoreraient, que Céline Paris, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Rita Ruggirello, notre stagiaire.